Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous approfondissons notre regard sur l'Inde qui pourrait être à un tournant de son histoire avec le deuxième mandat du Premier ministre Narendra Modi, conséquence de la victoire de son parti, le BJP, aux dernières élections législatives. Une victoire écrasante qui va lui donner les mains libres pour mener à bien sa politique. Que sait-on notamment de sa politique étrangère? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Isabelle Saint-Mézard, maître de conférences en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, également chercheur associé à l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Christophe Jaffrelot, chercheur aux séries Sciences Po et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier L'Inde de Modi, national-populisme et démocratie ethnique, paru aux éditions Fayard. Bonjour.
Bonjour.
Et Patrick de Jacquelot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez Asialiste.com. Bonjour.
Bonjour.
Selon la Banque mondiale, le produit intérieur brut indien vient de dépasser celui de la France. Selon ces critères, l'Inde est donc la sixième économie mondiale avec un taux de croissance officiel de plus de 7% par an ces dernières années. Est-ce que c'est suffisant pour améliorer le sort de ses habitants? On peut rappeler que le quart de la population indienne vit encore sous le seuil de pauvreté. Les mesures de Narendra Modi au cours des dernières années ont surtout visé à faciliter l'implantation de multinationales dans le pays. Selon sa formule Make in India, pas grand chose pour les petits commerces qui emploient la majorité des travailleurs. Nous l'avons dit rapidement dans l'émission d'hier consacrée essentiellement aux aspects politiques et à l'analyse du scrutin et du résultat des élections législatives. Patrick de Jacquelot, le bilan économique du premier mandat de Narendra Modi, il n'est pas exceptionnel.
Non, il n'est pas exceptionnel, mais enfin, le sujet est complexe. Hein. Il y a du pour, du contre. Bon, il y a des aspects incontestablement positifs. Il y a eu un gros effort dans tout ce que l'on appelle le ease of doing business, hein, la facilité à faire des affaires. Les entreprises étrangères qui travaillent en Inde vous disent très volontiers que l'environnement administratif dans lequel elles travaillent est en train de s'améliorer. Il y a eu l'introduction de la fameuse GST, c'est-à-dire une espèce de TVA unifiée, qui est une réforme extrêmement importante. Ça permet de créer un marché unique intérieur indien, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, comme ça a été fait à l'indienne, si j'ose dire, c'est-à-dire de façon extraordinairement compliquée dans les modalités pratiques d'application, ça a commencé par créer beaucoup de désordres, mais enfin, c'est en train de s'améliorer, et pour les entreprises, les hommes d'affaires, etc., il ne fait aucun doute que, sur le moyen terme, c'est une mesure extrêmement positive. Donc là, il y a des choses qui sont très certainement positives dans le bilan des cinq premières années de Modi. Mais à côté de ça, il faut bien reconnaître que, en termes généraux, la situation de l'économie ne s'est pas du tout améliorée comme il l'avait promis il y a cinq ans. Il faut se souvenir qu'il y a cinq ans, la campagne de Modi avait porté exclusivement sur des promesses de développement rapide pour l'Inde et de progrès pour sa population. Bon, ça ne s'est pas vérifié dans les faits. Alors, la croissance actuelle est autour de 7%. On est même en dessous ces derniers mois, mais bon. Vu de France, ça peut sembler extraordinaire, mais il faut quand même se souvenir que quand on est un pays au stade de développement de l'Inde, et avec l'augmentation de la population du pays, 7%, c'est pas du tout suffisant. Les économistes s'accordent à penser que pour réduire durablement la pauvreté dans le pays, il faut dépasser 8% pendant de nombreuses années. C'est ce qu'a fait la Chine, qui pendant 15 ans a eu une croissance autour de 10%. L'Inde en est extrêmement loin. On sait également que la situation de l'emploi n'est pas bonne. Les chiffres ne sont absolument pas fiables, mais il est parfaitement clair que la jeunesse indienne, en particulier, a un taux de chômage très élevé, y compris pour les jeunes diplômés, ce qui crée énormément de frustration. Il y a également le problème du monde agricole qui emploie encore à peu près la moitié
des
de
Indiens
la population
actifs,
indienne.
Hein. Pardon ? Des Indiens actifs.
Oui, tout à fait. Et où là, la situation situation est très difficile, avec des revenus en baisse. Modi avait promis de doubler le revenu des paysans en 5 ans. Ça ne s'est absolument pas vérifié. Tout ça, ce sont des domaines dans lesquels il y a énormément à faire. Et ça va être une question extrêmement intéressante de voir si, maintenant qu'il a été réélu après une campagne où il n'a pas parlé de développement cette fois, ça va être très intéressant de voir si Modi, effectivement, lance les réformes qui sont nécessaires pour améliorer tous ces problèmes.
Alors, on va voir effectivement quelles sont les priorités. Isabelle Saint-Riva.
Juste une petite note complémentaire. Quand on essaie d'évoquer le bilan économique de Narendra Modi, il faut signaler que c'est devenu compliqué, tout simplement parce que tout le système statistique indien, qui jusqu'à présent était assez perfectionné et sophistiqué, est en train d'être bousculé. Et notamment sur l'enjeu crucial de l'emploi, hein, sur lequel effectivement Narendra Modi s'était fortement engagé en 2014. Il avait promis de créer, 100 millions d'emplois ?
Oui, en 5 ans.
En 5 ans.
20 millions par an.
Ça, non seulement on n'en a pas parlé en 2019, et effectivement il valait mieux pas en parler parce que, semble-t-il, les chiffres n'étaient pas bons, mais je dirais de façon très préoccupante aussi. Le gouvernement Modi a bloqué la sortie, la publication de statistiques sur l'emploi de la part des institutions normalement autonomes qui faisaient ce type de travail. Et il a fallu en fait avoir des fuites de la part de certaines institutions ou se retourner vers des centres indépendants pour avoir une idée de la situation pas du tout positive de l'emploi. Mais j'insiste encore sur cette donnée fondamentale. On a quand même un gouvernement qui, lorsqu'il voit des statistiques sur un enjeu fondamental de l'emploi, se permet tout simplement de les mettre sous le tapis.
Oui, c'est une critique qui a été faite durant la campagne. Effectivement, tout a été verrouillé pour que la vérité n'émerge pas dans cette perspective donc d'élection législative. Alors, j'ai bien compris que les chiffres en Inde, il fallait s'en méfier. Dans le cadre de la préparation de cette émission, ce que j'ai vu, c'est que le taux de chômage était de fin 2018, donc il y a 6 mois, 6,1%. 400 à 600 millions d'Indiens qui vivent dans la pauvreté. C'est dire que finalement, le fossé entre les promesses et la réalité de ce qui est aujourd'hui finalement à des allures de gouffre, le nombre de pauvres étant l'un des plus élevés au monde. Je parle bien sûr sous votre contrôle. Les premières victimes du chômage et du manque d'emploi, les femmes, les musulmans, et peut-être quelques mots, Christophe Jaffrelot, je sais que vous souhaitiez le faire, on n'a pas eu le temps dans l'émission d'hier sur les institutions.
Ce que dit Isabelle mérite d'être relevé, souligné et je dirais comparé à l'échelle de l'Inde. De nombreuses institutions sont en train de perdre leur autonomie. L'État indien avait une crédibilité remarquable dans ce domaine et c'était une des grandes forces de la démocratie indienne que d'avoir une architecture institutionnelle forte. Aujourd'hui, on voit effectivement l'INSEE à l'indienne passer sous le contrôle du pouvoir et perdre en crédibilité, à telle enseigne d'ailleurs que des statisticiens professionnels démissionnent pour ne pas se discréditer. Mais au-delà, c'est la Reserve Bank of India, la réserve fédérale, qui a vu son gouverneur changer à 2 reprises. On en est au 3e en 5 ans. C'est sans précédent. Mmh. Et celui qui a démissionné est parti parce qu'on voulait lui tordre le bras sur des politiques qui devaient servir justement le parti qui disputait les élections. Et puis 3e institution tout à fait importante, la commission électorale, qui veille au bon déroulement du scrutin et qui, jusque-là, avait acquis une très belle réputation et que la Cour suprême a dû rappeler à l'ordre. C'est la première fois dans l'histoire indienne que la Cour suprême dit à la commission électorale « Faites votre travail et ne laissez pas Narendra Modi et Amit Shah, le chef du BJP, déraper en permanence et utiliser la religion en politique, utiliser la peur du Pakistan en politique. » Ça n'est pas conforme à ce code de conduite qu'ils ont édicté eux-mêmes, les responsables de la commission électorale, mais à 6 reprises, la commission électorale a donné un blanc-seing à Narendra Modi et à Amit Shah.
D'où ce qualificatif de démocratie libérale. Alors je sais que Patrick de Jacquelot, vous souhaiteriez rajouter quelque chose, après ça je passerai la parole à Jean-Luc Rassi.
Oui, je voudrais juste ajouter un mot à la liste des institutions discréditées. On peut ajouter le CBI, qui est l'équivalent indien du FBI américain, si vous voulez, et qui qui est totalement sous la coupe du pouvoir politique, utilisé pour enquêter à charge contre les adversaires politiques, etc. Alors, ça n'est pas nouveau, ça ne date pas du gouvernement Modi, il y a une, quand même une certaine tradition à la matière, mais ça ne fait que s'aggraver.
Jean-Luc Racine.
Tout ce qui vient d'être dit pose, sous des façons différentes, le même problème. Les chiffres donnés sur le chômage, 6 et quelques pourcents, ça n'a évidemment aucun sens. À supposer que les statistiques soient correctes, ce seraient les statistiques sur le secteur formel. Or, ça a déjà été dit, le secteur informel, c'est 70 ou 80% de l'économie. Mais on peut penser quand même que l'électeur indien moyen n'a pas besoin de connaître les chiffres du chômage venu par New Delhi. Il regarde sa situation, il regarde sa famille, il regarde ses voisins. Et donc là, il y a une espèce de paradoxe, me semble-t-il, dans le succès renouvelé du BJP. Et donc, il faut s'interroger sur... la campagne n'a pas vraiment porté sur les questions économiques. Mais à ce moment-là, pourquoi le parti du Congrès n'a-t-il pas été entendu quand il a mis en avant, outre l'affaire des Rafales, en disant que Modi est un voleur...
L'affaire des Rafales, la vente des appareils par la France, avec la critique du parti du Congrès,
d'un capitalisme de connivence sur les offsets, etc. Mais surtout, le parti du Congrès avait mis en avant une mesure bien plus forte que celle proposée par Narendra Modi en termes, en quelque sorte, de revenu minimum garanti pour les 20% les plus pauvres. Il proposait 72 000 roupies par an, alors que le BJP proposait 6 ou 7 000. Ça n'a pas pris. Donc, la question qu'il faut se poser est qu'éclairent certaines des enquêtes journalistiques faites après les résultats. Je pense en particulier à des enquêtes qui ont été faites en Uttar Pradesh, où contrairement à ce que Rahul Gandhi avait prédit, à savoir le BJP en Uttar Pradesh aura 10 sièges, il en a eu plus de 60 sur 80, ce qu'on peut peut-être dessiner, c'est encore une fois l'idée, c'est pas formidable, mais on lui donne une deuxième chance. Pourquoi on lui donne une deuxième chance? On lui donne une deuxième chance parce que dans la multitude des projets que le BJP a affiché durant le premier mandat de Narendra Modi, beaucoup de ces projets étaient en fait des projets repris de ceux du gouvernement congressiste précédent, mais rebaptisés à la sauce BJP. Mais ce qu'on voit en tout cas comme un des éléments du succès inattendu, c'est en quelque sorte de la microéconomie et pas une réflexion sur les données macroéconomiques. La microéconomie, c'est j'ai enfin une connexion électrique. La microéconomie, c'est on nous a donné une bouteille de gaz.
Mon quotidien s'améliore
peu, mais il s'améliore. Ou il y a maintenant 3 maisons en dur qui ont été construites sur un programme gouvernemental dans le village. Ça paraît pas grand-chose, mais il faut, me semble-t-il, qu'on essaie de comprendre pourquoi les résultats ont été ce qu'ils ont été. Et c'est là, peut-être, où on retrouve à la fois le talent du BJP pour faire circuler des informations vraies ou fausses, où on retrouve le quadrillage que j'évoquais dans l'émission d'hier, et où on retrouve, ce qui a été d'ailleurs une autocritique du parti du Congrès, le BJP sait beaucoup mieux mettre en valeur ce qu'il fait, fût-ce le peu qu'il fait, que le Congrès ne l'avait fait lors des mandatures précédentes. C'est ce genre de choses qui peut peut-être expliquer des résultats dont l'ampleur était inattendue. Alors après, évidemment, il y a le discours ronflant. Ça a été dit, on avait promis de doubler le revenu des paysans. Maintenant, l'objectif est toujours là. Dans le programme du BJP, il y a quand même beaucoup de choses sur le monde rural. La question, c'est est-ce que ça se mettra en place? Et puis alors après, je laisse de côté le discours hyper-nationaliste sur l'économie, où Modi sans sourciller. Et alors c'est vrai que l'Inde est aujourd'hui la 5e économie mondiale puisqu'elle a dépassé la France et elle dépasse cette année la Grande-Bretagne. Mais Modi, lui, voit plus loin. Il annonce pour 2025 un produit national brut de 5 000 milliards de dollars, c'est-à-dire de doubler le PNB indien en quelques années. Ça n'a évidemment aucun sens. Mais ça fait partie d'un des discours qui a eu un écho, en particulier dans la petite classe moyenne, ce qu'on appelle les aspirants, qui peuvent être sensibles au discours. Un des volets de la campagne a été de dire « Vous voyez, on nous respecte aujourd'hui beaucoup plus dans le monde tel qu'il est. On a tenu bon face aux Chinois en 2017 sur la frontière Inde-Bhoutan-Chine. On a tenu bon face au Pakistan après les attentats au Cachemire. Nul ne sait si le camp des djihadistes a véritablement été bombardé avec succès, mais c'est non patriotique de poser la question. » On a là une manière d'articulation entre l'émergence de l'Inde qui se poursuit sur le plan économique et le discours nationaliste qui connecte comme toujours la grandeur de l'Inde éternelle, affaiblie par les invasions musulmanes puis par la colonisation britannique, et l'avenir radieux qui attend l'Inde dans le monde de demain.
Alors, économie et politique étrangère sont évidemment très liées. Patrick de Jacquelot, maudit, a surpris par l'énergie déployée dans ce domaine durant son premier mandat. Je parle de politique étrangère. Il a parcouru le monde pour attirer les investisseurs dans le cadre de son programme Make in India que j'évoquais précédemment. Tout cela pour tenter de mieux résister à la Chine. Quelles sont, pour les 5 années à venir, sur le plan économique, les priorités pour l'Inde ?
Alors écoutez, si Modi veut réellement doubler le PNB de l'Inde dans les quelques années qui viennent...
Il faut un taux de croissance faramineux.
Colossal. Et pour ça, il faut mener à bien un certain nombre de réformes très profondes de l'économie. En France, on présente souvent Modi comme un ultralibéral. Ce qui, à mon avis, n'est absolument pas le cas. Modi, c'est quelqu'un qui a une vision très traditionnelle de l'économie, et son parti et le RSS, l'organisation idéologique des hindous, encore plus. C'est beaucoup plus une vision d'une économie centralisée, d'un État fort, etc. Mais il n'empêche que il y a 5 ans, quand Modi est arrivé au pouvoir, il avait un certain nombre de grandes réformes à son programme, et notamment dans des domaines dont on sait qu'ils sont cruciaux si on veut une croissance économique très forte, c'est-à-dire faciliter les achats de terres, réformer toutes les lois sociales qui sont un maquis inextricable, qui finissent par coûter très cher aux entreprises sans protéger vraiment les salariés. Bon, tout ça, c'était à son programme. Et en fait, en quelques mois, il a tout abandonné parce que il a été confronté à l'hostilité, en fait, de ses propres troupes, de ses des supporters du RSS et du BJP, qui n'avaient pas du tout la même vision. Depuis quelques jours, parce que pendant la campagne des semaines dernières, il n'en a jamais été question, mais depuis qu'on a le résultat des élections, on voit réapparaître ces thèmes de façon très insistante comme étant de nouveau des priorités de Modi. Alors ça va être extrêmement intéressant dans les quelques mois qui viennent, de voir s'il réussit cette fois à faire passer des réformes très radicales, assez violentes, dont, a priori, ses troupes ne veulent pas vraiment. Mais s'il veut être cohérent avec lui-même et s'il a vraiment un objectif de croissance extrêmement rapide de l'Inde, c'est ce qu'il doit faire.
Christophe Geoffrelot.
Oui, une des priorités aussi qui s'ajoute à celle-ci, c'est la réforme du secteur financier, parce que le système bancaire indien est quand même dans une situation très délicate, et on voit là d'ailleurs le prix de ne pas avoir réformé le secteur, le prix à payer est considérable. Les banques sont toutes publiques, les directeurs de banques sont nommés par les gouvernants. Quand les gouvernants ont besoin que leurs alliés du monde des affaires obtiennent un prêt, eh bien, il n'est pas si compliqué de forcer la main aux banques publiques pour qu'elles prêtent cet argent. Et c'est ce qui s'est passé. Simplement pour des projets d'investissement qui n'ont pas nécessairement été très fructueux, et donc beaucoup de ces grandes entreprises n'ont pas remboursé leurs prêts. Aujourd'hui, les créances douteuses au bilan des banques indiennes, c'est près de 10%. Je pense que on est autour de ça encore aujourd'hui. On a recapitalisé ces banques à grands frais. Ce sont des milliards qui ont été engloutis. Ça n'a pas suffi. Il y a une baisse du crédit aux entreprises parce que les banques ne peuvent plus prêter. Et en plus de ça, on n'a pas réformé. Et pourquoi on n'a pas réformé ? Parce que, comme le dit Patrick, Modi n'est pas du tout market friendly. Il est business friendly. Et il a besoin des hommes d'affaires qui ont payé sa campagne électorale Et donc ces hommes d'affaires, on va pas les...
Se les mettre à dos ?
Se les mettre à dos. On va continuer à faire passer ceci sur le dos des contribuables.
Géopolitique, nous poursuivrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouvons nos invités Christophe Jaffrelot, Patrick de Jacquelot, Jean-Luc Racine et Isabelle Saint-Mézard. Après le journal, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous poursuivons notre regard sur l'Inde et nous retrouvons nos invités Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8, également chercheur associé à l'IFRI, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre, Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI Sciences Po CNRS, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier « L'Inde de maudit national populisme et démocratie ethnique » aux éditions Fayard, et Patrick de Jacquelot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez Asia. L'Europe connaissait des élections la semaine dernière, des élections pour lesquelles les questions d'environnement ont eu une importance certaine. Christophe Jaffrelot, en revanche, cette longue élection législative en Inde, la thématique de l'environnement était quasiment inexistante, voire totalement, alors que l'Inde est quand même un pays qui connaît des villes qui sont parmi les plus polluées au monde et des problèmes d'eau.
Oui, il y a un paradoxe évident qui est attribuable en partie au fait qu'il n'y a pas de parti vert, à la différence de ce que l'on voit en Europe, mais qui est attribuable aussi au fait que ça n'est pas sur l'agenda. Et les rapports récents chiffrant le nombre de morts dus à la pollution atmosphérique ont été rejetés d'un revers de main par le ministre en charge du dossier dans le gouvernement Modi. On ne veut pas prendre en considération ce qui est devenu un problème de santé publique majeur. Les démographes attribuent à la pollution atmosphérique 1 200 000 morts supplémentaires tous les ans dans l'état de Delhi. Et c'est le plus pollué de loin, mais ce n'est pas le seul. Donc on est face à une contrainte et un défi. Le développement indien ne pourra pas ne pas prendre en considération cette donnée. L'autre donnée que vous évoquez, c'est l'eau. C'est évident aussi. Et c'est un problème qui est très fort dans des zones qui font de la canne à sucre comme le Pendjab et où les nappes phréatiques ont perdu 65% en quelques années. Mais c'est un problème qu'on trouve dans les villes aussi. On sait que Bangalore n'aura plus d'eau pour subvenir à ses besoins dans 7 ans. Donc ce sont des problèmes qui vont percuter de plein fouet la politique économique et qu'il faudrait tout de même étudier.
Patrick de Jacquelot.
Juste un chiffre sur l'eau. Selon les prévisions officielles du gouvernement indien, en 2030, la demande sera le double de l'eau disponible. Ça donne une idée de l'ampleur du problème auquel est confrontée l'Inde.
Alors, il y a toujours la politique du dessalement avec un pays qui est entouré d'océans.
C'est peut-être ça, je crois pas du tout que ça ait commencé pour le moment. Je crois pas qu'il y ait d'usine de dessalination.
Politique étrangère, Isabelle Saint-Mézard, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir l'agenda diplomatico-économique à court terme pour Narendra Modi. On va parler aussi, et on l'évoquait très rapidement, cette volonté de mieux résister à la Chine, la relation avec les États-Unis. On parlera aussi de la relation de l'Inde avec ses pays voisins et puis eu égard à sa situation particulièrement centrale entre le Moyen-Orient et l'Asie de l'Est. Isabelle Saint-Mézard, l'agenda diplomatico-économique.
Moi, j'y vois d'abord le dossier des relations et surtout des négociations avec les États-Unis, qui sont de toute façon un partenaire majeur pour les Indiens. Il va y avoir le sommet du G20 d'Osaka, fin juin. Il est d'ores et déjà prévu que le président Trump rencontre à cette occasion Narendra Modi. Mike Pompeo apparemment va passer dans les semaines qui viennent à Delhi pour préparer cette rencontre. Il y a beaucoup de dossiers à négocier sur la table, des dossiers pas du tout évidents, parce que autant sur le plan stratégique, il y a pas mal de convergences qui se nouent solidement entre l'Inde et les États-Unis, autant sur les dossiers économiques et commerciaux, il y a des frictions que les États-Unis ont bien voulu laisser en suspens le temps des élections, mais que là, il va falloir un petit peu négocier. Donc, Trump a dit qu'il voulait plus de réciprocité de la part de l'Inde. Il y a tout un tas de frictions sur les droits de propriété intellectuelle industriel dans le domaine pharmaceutique, sur le commerce électronique, sur les régimes d'investissement, sur les tarifs préférentiels qui avaient pu être accordés à l'Inde dans certains domaines. Bon, tout ça, ça n'a pas été négocié, ou en tout cas les négociations n'ont pas abouti, il va quand même falloir avancer sur ces sujets-là. Et puis il y a le dossier assez visible du pétrole iranien. L'Inde importe du pétrole d'Iran, c'est très avantageux pour elle, pas de chance, vous connaissez tous la situation entre les États-Unis et l'Iran, elle est donc susceptible, l'Inde, d'être sanctionnée si elle continue à importer du pétrole iranien. Mais le problème, c'est que ce pétrole, il est quand même important pour les Indiens. En plus, le tarif du baril est en train d'augmenter. Donc ça, c'est aussi un facteur important à prendre en compte. Les équilibres macroéconomiques en Inde sont très, très sensibles et fragiles par rapport à la hausse du baril. Voilà, il y a tout ça qui est en train de se jouer. Comment essayer de négocier encore peut-être une autorisation, ne serait-ce que de 6 mois, pour pouvoir encore importer du pétrole d'Iran. Mais comment on va négocier ça avec les États-Unis? Bon, ça reste ouvert.
Ça fait pas mal de nuages finalement qui s'amoncellent au-dessus de l'Inde, la question iranienne, la guerre commerciale aussi entre les États-Unis et la Chine, et cette relation entre New Delhi et Washington que l'on dit absolument extraordinaire. Il n'empêche que l'Inde a été exclue de la liste américaine des pays bénéficiant de préférences commerciales. Donc tout ça, on sent bien des dossiers assez fragiles, Jean-Luc Racine, et c'est un euphémisme peut-être.
Oui, ce que toutes ces difficultés soulignent, c'est aussi les limites du discours, toujours répété depuis des décennies, mais évidemment a fortiori sous un régime comme celui de Narendra Modi, qui est celui de l'autonomie stratégique. Stratégique à prendre dans tous les sens du terme. Alors certes, ça a été dit, les relations purement stratégiques d'ordre militaire et sécuritaire entre l'Inde et les États-Unis sont plutôt bonnes et se sont intensifiées ces dernières années. Mais on a eu raison de souligner que les divergences commerciales, on peut y ajouter aussi la question très sensible pour la classe moyenne supérieure indienne des visas de travail aux États-Unis, qui est un sujet épineux, et les Indiens qui souhaitent s'expatrier ont maintenant plus de difficultés à faire en direction des États-Unis. Mais ça pose aussi d'une façon plus générale la question de la marge d'autonomie dont l'Inde peut disposer, à la fois en matière de commerce extérieur ou d'échange extérieur et de relations internationales. En fait, l'Inde importait 10% de son pétrole en provenance d'Iran. Mais quand le ministre des Affaires étrangères iranien est venu à Delhi il y a peu de temps, donc on lui a dit qu'on prendrait des décisions après les élections. Sauf que les décisions ont déjà été prises. C'est-à-dire que les importateurs indiens de pétrole ont déjà presque fermé les tuyaux en provenance de l'Iran. La question est de savoir, Isabelle Saint-Mézard l'a dit, si Washington va permettre de les rouvrir quelque peu, mais c'est pas très important parce que les importateurs indiens se sont tournés vers d'autres pays, en particulier dans le Golfe, puisque ça va aussi dans le sens de ce qu'a été, encore une fois, pas une innovation, mais un renforcement d'une politique ancienne, mais avec plus de vigueur à la mode Modi, si j'ose dire, en direction du Conseil de coopération du Golfe, de l'Arabie saoudite, des Émirats, etc. Et ça pose aussi un problème vis-à-vis de l'Iran, pas simplement pour la question du pétrole, mais pour le fameux port de Chabahar, dont les Indiens dirigent une partie des activités, et qui est la porte d'entrée de l'Inde vers l'Afghanistan. Donc là, pour le moment, Washington a laissé les choses en l'état en considérant que ça servait à la reconstruction afghane. Mais en même temps, évidemment, avec le président Trump, on ne sait jamais quel tour les choses peuvent prendre. Un dernier point très rapidement vis-à-vis de la Chine. Il faut quand même se rappeler que la Chine est le troisième partenaire économique commercial de l'Inde, derrière le Conseil de coopération du Golfe pour le pétrole et l'Union européenne. C'est-à-dire que les Indiens échangent avec les Chinois plus qu'ils n'échangent avec les Américains. Donc bien sûr, les relations sont compliquées avec la Chine, mais il est clair que vis-à-vis des plus radicaux de l'administration Trump, la ligne indienne devrait continuer d'être ce qu'elle a été depuis toujours. Des partenariats, oui, mais des alliances pures et dures, non. C'est-à-dire pas de bloc anti-chinois qui risquerait d'avoir des conséquences sur les relations bilatérales, où là il y a un jeu subtil, diplomatique et pas seulement diplomatique, qui se joue entre New Delhi et Pékin depuis de longues années, qui a continué sous Narendra Modi.
Alors on évoquait la question du pétrole avec l'Iran, mais le pétrole c'est un aspect seulement de la relation entre New Delhi et Téhéran, Christophe Jaffrelot. On peut souligner que New Delhi s'est rapproché de Téhéran sur des projets dans la région du détroit d'Hormuz. Donc finalement, cette question iranienne, pour les Indiens, elle a un impact très fort.
Oui, c'est très important et comme le dit Jean-Luc, c'est aussi parce que c'est par l'Iran qu'on peut atteindre l'Afghanistan et que pour l'Inde, avoir un pied en Afghanistan, c'est très important. Et l'Iran et l'Afghanistan permettent de prendre le Pakistan à revers. Mais ce rapprochement avec l'Iran, il est effectivement compliqué du fait des sanctions américaines, mais du fait aussi de l'offensive saoudienne qui, rappelons-le, s'est manifestée lors de la visite de MBS il y a quelques semaines, par la promesse de 100 milliards de dollars d'investissement en Inde. Les Saoudiens cherchent aussi à enfoncer un coin dans la relation Iran-Inde, et les Indiens, d'abord, ont besoin de ces investissements, car il n'y a pas beaucoup de candidats à ce niveau-là d'investissement pour l'Inde, et d'autre part, ils cherchent à utiliser les Saoudiens comme un canal de communication, voire d'influence vis-à-vis des Pakistanais. Comment est-ce que l'Iran peut accéder un rapprochement entre l'Inde et l'Arabie Saoudite, qui s'ajoute au rapprochement entre l'Inde et Israël, ne l'oublions pas, parce que les 5 années qui viennent de s'écouler ont aussi marqué un point de plus dans cette direction. Ça, c'est un des dossiers. Mais j'aurais ajouté un coup de projecteur sur le voisinage immédiat, parce que...
J'allais y venir, Bangladesh...
Bangladesh, Sri Lanka, Maldives, Népal, inutile de faire peut-être le tour complet, mais il y avait... Une priorité dans le premier mandat de Narendra Modi, c'est retrouver une forme d'ascendance sur l'environnement proche, au moment où la Chine pousse ses pions dans toute cette zone. Et en fait, le bilan est plutôt mitigé. On voit en particulier Sri Lanka prisonnier de son endettement vis-à-vis de la Chine. Et là, vous pouvez changer de gouvernement, vous ne changez pas de banquier. Et donc, même si les successeurs de Rajapakse voulaient s'émanciper de la Chine, ils ont quand même fini par donner pour 99 ans le port de Umbatota aux Chinois. Les Népalais ont tendance aussi à regarder davantage vers la Chine. Il faut dire que les Indiens ont quand même plutôt utilisé le bâton que la carotte pour se les gagner à leur cause. Le Bangladesh est certainement entre les deux, mais ça complique la relation avec le Bangladesh que cette idée qu'il y ait des migrants illégaux dans le nord-est de l'Inde et qu'il faudrait les renvoyer chez eux. Bref, l'idée qu'on allait contenir la Chine dans l'environnement indien est plutôt mal partie. Et ça, c'est quand même quelque chose que Modi avait mis comme une de ses priorités. Il a beaucoup voyagé dans la zone et finalement, pour un résultat qui est assez mitigé.
Finalement, au terme de ces 5 premières années du premier mandat de Modi, ce qu'on a pu constater, c'est des relations avec les voisins immédiats qui ont été particulièrement délicates. On l'a abordé hier, des attentats et ensuite cette riposte de l'Inde sur le Pakistan, et des relations avec le Pakistan particulièrement compliquées. Voilà, pour ce deuxième mandat de Narendra Modi, il y a peut-être une gestion des priorités sur lesquelles on n'a pas forcément un regard très, très facile.
Oui, sans compter qu'il faut dire un mot du Cachemire quand même,
Jaffrelot.
Parce que la relation avec le Pakistan est d'autant plus compliquée que la situation au Cachemire reste très dégradée. Ce n'est pas la seule raison des tensions, mais malgré tout, le fait qu'il n'y ait toujours pas de gouvernement à Srinagar, que l'armée réprime et que les Cachemiris ne soient pas allés voter.
Et en tout cas, dans les proportions, oui, 20% à peu près de taux de participation.
Quand le taux national
est à 67%.
Ouais. Voilà.
20% dans les régions à majorité hindoue. Dans la vallée de Srinagar, c'est insignifiant.
Donc là, on a une espèce d'État en ébullition qui quand même fragilise tout effort de normalisation avec le Pakistan et qui peut aider des groupes djihadistes à trouver des relais sur place.
Isabelle Saint-Mézard.
C'est d'autant plus compliqué qu'en plus, Narendra Modi et ses conseillers prennent la voie de la facilité, c'est-à-dire que au lieu de regarder la situation dans la vallée, c'est-à-dire au Cachemire indien, telle qu'elle est en partie, c'est-à-dire comme un échec patent de la politique indienne pour gérer ce territoire particulier, eh bien la voie de la facilité, c'est de dire bah tout ça, de toute façon, c'est la faute au Pakistan, bien évidemment, parce qu'ils n'ont jamais cessé de fomenter le trouble. Donc, ils amalgament, là encore, deux choses qui mériteraient plutôt d'être un petit peu distinguées. Le problème vraiment intérieur relatif à la gestion du territoire autour de la vallée, hein, du Cachemire, disons, musulman, et la relation au Pakistan. Cela n'augure rien de très prometteur pour les mois à venir.
N'oublions pas que celui qui a fait l'attentat de Pulwama n'est pas un Pakistanais, mais un Indien du Cachemire. Et que des djihadistes d'origine cachemirie, ça n'était pas si nombreux, si fréquent.
Oui. Un certain nombre d'experts, d'ailleurs, signalent une radicalisation, ou un désespoir, en tout cas, des plus jeunes au Cachemire. Qui est encore un phénomène un peu préoccupant.
Donc un dossier qu'on suivra bien de près. Pour terminer finalement ce cycle de week-end sur l'Inde, Patrick de Jacquelot, je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose sur les priorités économico-diplomatiques de Narendra Modi pour ce deuxième mandat.
Ben écoutez, comme je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, je crois que ça va être extrêmement important de voir quel programme de réforme Narendra Modi va lancer dans les mois qui viennent. On sait que son gouvernement est en train d'élaborer un plan de 100 jours. On va voir ce que ça renferme. On a déjà évoqué la nécessité ou le besoin de faire des grandes réformes en matière d'achat de terres, en matière de lois sociales, en matière de restructuration du secteur financier. Mais il y a encore plein d'autres choses à faire. Par exemple, restructurer le secteur public qui est immense, extrêmement inefficace. Et ça passe par un programme de privatisation qui aurait dû être engagé pendant les 5 premières années, qui ne l'a pas du tout été. Il va y avoir un test extrêmement intéressant avec de nouveau une tentative pour privatiser Air India, la compagnie aérienne nationale qui est en faillite depuis 10 ou 15 ans, renflouée chaque année, qui a été mise sur le marché par Narendra Modi il y a un an ou deux, avec comme résultat qu'il n'y a pas eu un seul candidat au rachat d'Air India, tellement les conditions posées par le gouvernement indien étaient compliquées et inacceptables. Bon, là, ils ont dit qu'ils allaient recommencer. Ça va être un test extrêmement intéressant, parmi bien d'autres.
Jean-Luc Racine.
Oui, sur cette question économique, moi je pense qu'il faut rappeler, ça a été dit, mais il faut rappeler, Narendra Modi est dans la ligne de ce qu'ont été les réformes de son prédécesseur Manmohan Singh, c'est-à-dire d'ouvrir l'Inde à l'économie mondiale, mais dans un sens qui est plutôt « faites venir à moi les investissements étrangers ». Mais pour le reste, c'est pas un néolibéral. Et il faut bien mesurer que les réformes préconisées, d'ailleurs, c'est quoi les réformes sur le droit du travail dans une société où 70 ou 80% de la population est en secteur informel ? Et libéraliser l'accès à la terre, que fait-on des gens qui sont expulsés de leur terre ? C'est un sujet qui dure depuis des décennies. Donc ces dossiers-là sont politiquement extrêmement sensibles. Pour le reste, en matière de politique étrangère, ben cette fois, voilà, ils sont là, c'est un deuxième mandat consécutif, on ne peut pas se permettre de reporter à plus tard, même si on peut supposer que Modi pense déjà au troisième mandat. La situation va vraiment se jouer, et beaucoup d'observateurs indiens le soulignent, sur les incertitudes qui découlent des positions de l'administration Trump. Donc, il faut voir ce qui va se passer en 2020 aux États-Unis, mais c'est un peu le pivot de ce que va être la politique étrangère indienne à l'échelle globale, dans ses relations avec la Russie, dans ses relations avec la Chine, entre autres, et dans l'Indo-Pacifique, que l'on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui est une zone dans laquelle l'Inde entend faire entendre sa voix.
Un acteur majeur dans l'océan Indien, point d'interrogation, sera peut-être le sujet d'une prochaine émission. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence. conférence en géopolitique de l'Asie à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8 et chercheur associé à l'IFRI. Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Christophe Jaffrelot, chercheur au CERI Sciences Po et auteur de L'Inde de Maudit, national populisme et démocratie ethnique, paru chez Fayard. Et Patrick de Jaclot, ancien correspondant en Inde des Échos et journaliste chez asialiste.com. Géopolitique qui était signé Nathalie Laporte, Yael Co et Marie-France Chatin. À samedi prochain.